Bonjour. Donc, je vais parler des chiffres du numérique d'une manière générale. Je vais parler donc de mémoire et je vais m'intéresser aux chiffres globaux, donc de mémoire, de calcul et puis aussi d'électricité dépensée pour le numérique. C'est un sujet qui est assez difficile au sens où il est difficile d'avoir des chiffres très précis. Mais même les ordres de grandeur, je pense, sont intéressants. Donc, l'idée, c'est d'avoir conscience des chiffres qui mesurent la mémoire numérique, nos capacités de calcul, et puis l'énergie utilisée éventuellement. Enfin, si, j'en parlerai à la fin. Alors, il y a une vingtaine d'années, dans la rubrique Logique et calcul de Pour la science, j'avais déjà traité le problème et j'avais remarqué quelque chose qui était assez frappant, c'est que le chiffre 10 puissance 20 représentait à la fois la quantité de mémoire qu'on pouvait estimer sur Terre à cette époque-là, 10 puissance 20 octets, alors il faut bien préciser les unités évidemment, 10 puissance 20 octets, et puis en même temps, si on calculait la puissance de calcul cumulée de tous les dispositifs numériques sur Terre, on arrivait à une puissance qui était en ordre de grandeur, hein, c'est-à-dire c'est un ordre de grandeur en plus ou un ordre de grandeur en moins, mais en ordre de grandeur, c'était 10 puissance 20 instructions par seconde. Ça, c'était donc en l'an 2000, 2002, je crois, précisément. Donc 10 puissance 20, c'est un nombre qu'on peut mémoriser assez facilement, qui est quand même assez grand, c'est 100 milliards de milliards. Bon. L'idée, ça va être de se baser pour faire une évaluation. Aujourd'hui, donc en 2021-2022, sur divers raisonnements. Et en particulier, on va utiliser ce qu'on appelle la loi de Moore, la loi de Gordon Moore, qui était l'un des créateurs de la firme Intel, et qui affirmait la chose suivante. Alors, je vais énoncer plusieurs formes de la loi de Moore. C'est que la capacité des dispositifs informatiques pour un prix donné double tous les 2 ans. Ça, c'est une sorte de forme générale. Capacité des dispositifs informatiques, ça peut aussi bien viser la quantité de mémoire, la quantité de calcul ou d'autres choses. On va voir qu'il faut être un peu prudent et que cette forme très générale, elle est discutable et je vais la discuter à certains moments de la conférence. Précisément, ce que disait Gordon Moore, ce n'était pas tous les dispositifs informatiques, etc. Lui, ce qu'il visait, quand il a énoncé sa loi la première fois en 1965, c'était le nombre de transistors qu'on pouvait intégrer par centimètre carré. Voilà, donc c'était. Alors, il a énoncé 2 fois sa loi, même si aujourd'hui on se souvient que plutôt que de la seconde. Dans un premier temps, il a parlé d'un doublement tous les ans. Donc c'est la loi qu'il a énoncée en 1965. Et dans un second temps, 10 ans après, on lui reposait la question, il a réécrit un article, et il a parlé d'un doublement tous les 2 ans. Donc c'est plutôt cette version-là, parce que doublement tous les 2 ans, tous les ans, ça fait quand même vraiment beaucoup, beaucoup. Alors, si on prend les chiffres de 2000, de 10 puissance 20, et qu'on cherche à les appliquer, pour savoir ce qui se passe en 2021-2022, on se pose la question, qu'est-ce qui est devenu le 10 puissance 20 proposé il y a deux décennies? Et un petit calcul montre qu'un doublement tous les 2 ans pendant 20 ans, ça fait une multiplication par 1000. 1024, très précisément. Bon, de toute façon, tous ces chiffres-là sont des chiffres parfois en ordre de grandeur ou approximatifs. Mais là, un doublement pendant 20 ans tous les 2 ans, ça fait une multiplication 10 fois par 2, ça fait une multiplication par 1024 très précisément, enfin on va dire une multiplication par 1000. Ce qui correspond à un ordre de grandeur gagné tous les 7 ans. Donc ça c'est quelque chose qu'on peut mémoriser. La progression aussi bien, alors en première approximation de la quantité de mémoire dont on peut disposer, de la quantité de calcul qu'on peut faire en 1 seconde, etc., va être en gros multiplié par 10 tous les 7 ans. Voilà. Donc alors, la question, c'est donc, est-ce qu'aujourd'hui nous en sommes vraiment à 10 puissance 23? Puisque il s'est passé 20 ans, il y a une multiplication par 1000 si on prend au sérieux la loi de Gordon Moore. Donc, on en serait à 10 puissance 23 aujourd'hui. Alors, ce n'est pas très facile de répondre. Les évaluations qu'on peut faire sont approximatives, mais on va voir que quand même, on peut raisonner et que les raisonnements qu'on fait conduisent effectivement à dire qu'on en est aux alentours de 10 puissance 23 et que pour la mémoire, c'est un petit peu moins que pour le calcul. Et je vais discuter cette idée que la mémoire progresse moins rapidement que le calcul. Alors, intéressons-nous à la mémoire. Alors, d'abord, je vais rappeler un certain nombre de choses concernant les ordres de grandeur. On en connaît un certain nombre. On sait que le kilo, c'est 10 puissance 3, que le méga, c'est 10 puissance 6, que le giga, c'est 10 puissance 9, que le téra, c'est 10 puissance 12. Alors, je précise quelque chose. En informatique, on a tendance à confondre 1024 et 1000. Alors, il y a d'autres unités qui ont été proposées pour que cette confusion ne soit pas faite, mais en fait, on ne les utilise pas. Donc, on continue à faire cette sorte de confusion entre 1000 et 1024. Et donc, je ne cherche pas de subtilité là-dessus. Quand on parle de téraoctets, c'est à peu de choses près, 10 puissance 12 octets. Le pétaoctet, c'est 10 puissance 15. L'hexaoctet, c'est 10 puissance 18. Et puis, donc, on arriverait à l'ère du zeta. Donc, il y a des gens qui parlent que nous en sommes arrivés à l'ère du zeta. Alors, dans le cas de la mémoire, ça serait le zeta-octet, 10 puissance 21. Et puis, l'étape suivante, ça serait le iota-octet, ça serait 10 puissance 24. Alors, après, je vous épargne les puissances suivantes, 27, 30, 33, personne ne les connaît aujourd'hui. Hein. Moi-même, je les lis sur le transparent, je ne les connais pas par cœur. Ils ne sont pas aujourd'hui d'usage courant. Alors, on peut représenter ça comme ça, ça n'a pas beaucoup d'importance. Alors, réfléchissons quand même à la mémoire numérique. Alors, je rappelle des choses que je pense que la plupart d'entre vous connaissent très bien. C'est que l'octet, c'est 8 bits d'information. Bon, pourquoi est-ce qu'on mesure en octets? Alors, ça s'appelle le byte en anglais, mais pas BIT, BYTE. Ça permet de coder un nombre entre 0 et 255, de puissance 8, c'est 256, ou un caractère dans un alphabet de 256 caractères. C'est souvent ce qui est utilisé effectivement en informatique. Comme ça, on est assez au large avec 256 caractères pour coder des textes ou des programmes ou d'autres données. Alors, le kilo-octet, donc, c'est 2 puissance 10, 2 puissance 10 c'est à peu près 1000, voilà, donc on arrondit. Le kilo-octet ça va être 1000 octets. Le méga-octet, donc tout le monde connaît ça, c'est le million. Et alors ça correspond à quoi? Ça correspond déjà à quelque chose qui est assez substantiel, parce que si on considère un livre de 400 pages, alors je crois qu'il faudrait, pour arriver à un million, il faudrait qu'il y ait 2000 caractères par page, quelque chose comme ça, à peu près. C'est donc un livre à peu près de 400 pages. Donc c'est un livre déjà écrit assez petit. La plupart des livres ne font pas un million de caractères. Donc un mégaoctet, s'il n'y a pas d'image, hein, bien sûr, hein, ça permet de chiffrer, de coder un livre de 400 pages, hein, donc un livre assez épais. Et puis en termes d'image, c'est en gros une image de qualité plutôt moyenne, pas une image très, très fine. Alors après on arrive au gigaoctet, donc c'est le milliard d'octets. Là c'est en gros une heure de vidéo de qualité moyenne. Le téraoctet, donc, alors, si on se ramène au livre, ça fait 1 million de livres ou 1000 heures de vidéos. Le pétaoctet, là, c'est énorme, c'est 1 milliard de livres, personne ne lira jamais 1 milliard de livres, ou 1 million d'heures de vidéos, personne non plus, peut-être, ne regardera jamais 1 million d'heures de vidéos. Et puis l'hexaoctet, 10 puissance 18, c'est le stockage du CERN à Genève, qui stocke beaucoup de données, parce que les expériences qui sont menées au CERN nécessitent de stocker beaucoup de données sur les chocs entre particules et autres choses. Et c'est un tiers de la capacité de Facebook. Alors, c'était en 2021, je crois. Sans doute que c'est un peu plus aujourd'hui. Voilà. Alors, l'étape suivante, ça serait le zeta-octet, donc 10 puissance 21. Ça a été évalué comme la quantité de tous les disques durs qui sont produits en 2020. Donc en 2021, c'est sans doute un peu plus, etc. Je vais y revenir sur les disques durs après. Alors, il se trouve quand même, et je pense que vous en avez entendu parler, que cette histoire de loi de Moore, on a un doublement tous les 2 ans, ça finit par se fatiguer. On a longtemps annoncé la fin de la loi de Moore. Donc la loi de Moore n'est pas morte, mais elle commence à se fatiguer. Alors ça se voit un peu sur ce graphique, mais finalement pas tellement. C'est-à-dire c'est un graphique en échelle logarithmique. Ça devrait être une droite, donc c'est le nombre de transistors par microprocesseur, pour une série de microprocesseurs qui ont été pris en compte pour faire ce graphique, je ne détaille pas. Donc ça penche un peu, mais pas tellement. Donc aujourd'hui, la loi de Moore, elle continue quand même en gros à être vraie, mais il est assez vraisemblable que ça va diminuer. Ça sera peut-être un doublement tous les 3 ans ou un doublement tous les 4 ans, au fur et à mesure que le temps va passer. Et donc, du coup, l'ère du iota va peut-être se faire un petit peu attendre, mais on va en parler. Et on va voir qu'il y a une divergence entre les chiffres de la quantité de mémoire et les chiffres de la quantité de calcul qu'on peut faire. Alors, je précise toujours, hein, quand je parle de quantité de mémoire, c'est en octets. Et quand je parle de quantité de calcul, c'est en instructions par seconde. Alors, il y a deux choses dont je ne tiens pas compte quand je vais évoquer ces chiffres et les raisonnements qu'on fait pour les trouver. C'est que je ne prends pas en compte les gains qui pourraient résulter de l'utilisation de la mécanique quantique. On sait que ça va peut-être avoir une importance en matière de calcul. Mais aujourd'hui, les systèmes de calcul quantique ne sont pas très performants. Et aujourd'hui, ils ne concurrencent pas du tout les systèmes de calcul classiques. Donc, on va les négliger. Et puis, il y a autre chose en matière d'information. On s'amuse à stocker de l'information sur des brins d'ADN ou sur des molécules biologiques. Et là, on arrive à un stockage massif très important qui pourra peut-être intervenir dans ces chiffres-là plus tard. L'inconvénient du stockage sous forme en utilisant l'ADN ou l'ARN ou des choses comme ça, c'est qu'en fait, la lecture est très lente. Donc on peut stocker énormément d'informations, mais la lecture et l'écriture sont extrêmement lents. Et donc aujourd'hui, ce n'est pas du tout des technologies, ni la mécanique quantique, ni ce qui provient de la biologie, qui sont concurrence. Donc je vais les négliger. Peut-être que ça finira par entrer dans la course, mais aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Alors, j'insiste sur l'idée que connaître ces ordres de grandeur, donc les ordres de grandeur, ce qui m'intéresse, c'est les ordres de grandeur à l'échelon de la Terre. Je veux savoir combien il y a de mémoire sur Terre, de mémoire numérique sur Terre, et combien il y a de calculs faits par seconde sur Terre par tous les dispositifs numériques qu'on utilise. Alors, ça permet, par exemple, de savoir ce qui est envisageable pour mener une attaque contre des systèmes cryptographiques, donc des codes cryptographiques, par la méthode de la force brute. Quand on utilise une méthode cryptographique, on peut toujours essayer toutes les clés possibles, et si on arrive à les énumérer toutes, on va réussir à casser le code. Donc c'est ce qu'on appelle la méthode de la force brute. Bon, les cryptologues s'intéressent à cette question-là. Parce que si les quantités de calcul dont on peut disposer, éventuellement en achetant des machines assez puissantes, permettaient d'attaquer les codes cryptographiques par la méthode de la force brute, ces codes, en quelque sorte, seraient complètement fragilisés et ne pourraient plus être utilisés. Donc les cryptologues font toujours des calculs sur ces quantités de calcul dont on peut disposer à un coût raisonnable. Voilà. Ça peut donner aussi une idée, ces ordres de grandeur que je vais évoquer, sur les quantités d'informations qui peuvent être stockées par les organismes étatiques, comme je sais pas, la NSA, à tout hasard, ou les firmes qui stockent des données à propos de leur tout le monde, Google par exemple. Voilà, donc on peut avoir une idée. Et puis aussi, ça permet de connaître ces ordres de grandeur, d'avoir une idée des tables numériques, ou géographiques, ou météorologiques qu'on peut envisager de créer. Alors justement, si on s'intéresse par exemple à des tables de nombres premiers, pendant très longtemps on a constitué des tables de nombres premiers, qui étaient calculées d'ailleurs à la main par des gens qui calculaient très bien. Il y avait quelques erreurs dans ces tables, mais pas tant que ça. Et si par exemple on se disait, on va constituer la table de tous les nombres premiers possédant 50 chiffres ou moins. Je sais pas. Aujourd'hui, savoir si un nombre de 50 chiffres est un nombre premier ou pas, ça se fait en une fraction de seconde en utilisant les bons outils. Donc on pourrait se dire, on va stocker, parce que pourquoi ça pourrait être utile pour faire des études statistiques ou je ne sais quoi, de stocker tous les nombres premiers de 50 chiffres au moins. Alors ça, ce n'est pas raisonnable du tout, parce que même en utilisant un peu de codage, et il ne faut pas faire n'importe quoi pour réussir à faire ça, on pourrait n'utiliser qu'un bit par nombre premier nouveau, en utilisant le nombre premier précédent ou d'autres choses comme ça, et on arriverait à une quantité de mémoire pour stocker tous les nombres premiers jusqu'à 10 puissance jusqu'à possédant 50 chiffres ou moins, de 10 puissance 46 octets. 10 puissance 46 octets, c'est beaucoup plus que 10 puissance 20, 10 puissance 23, qui sont les chiffres là que j'envisage ici. Donc il n'en est pas question. Aujourd'hui, d'ailleurs, quand on veut savoir si un nombre est premier, on ne consulte pas une table, on fait un calcul. Ce qui est l'inverse de ce qui se passait il y a, au 19e siècle. On consultait une table et on ne faisait pas de calcul parce que les calculs étaient faits à la main et c'était difficile. Donc là, il y a un changement. Aujourd'hui, si on veut savoir si un nombre de 50 chiffres est premier, pas question d'utiliser une table, ça n'a aucun sens. Par contre, on sait répondre à la question assez rapidement en faisant le bon calcul, en utilisant le bon algorithme. Alors, la NSA, là, qui est un organisme qui stocke des données et qui surveille un petit peu tout le monde aux États-Unis et ailleurs qu'aux États-Unis, si elle gardait un gigaoctet d'informations pour chaque être humain, est-ce que c'est envisageable ? Alors, oui. Alors, je fais un calcul très, très sommaire. Ça ferait à peu près 10 puissance 19 octets. 10 puissance 19 octets, bah oui, c'est envisageable, puisque... c'est la limite de ce qui est envisageable, mais c'est envisageable, puisqu'en 2000, on était à 10 puissance 20 octets. Le CERN, alors le CERN, ça, c'est un chiffre qu'on peut mémoriser parce qu'il correspond à une réalité. Le CERN, aujourd'hui, atteint 10 puissance 18 octets, ce qui est quand même tout à fait colossal. Et Facebook, trois fois plus. C'est des chiffres de 2021. Peut-être que c'est un peu plus aujourd'hui, peut-être que c'est 5 fois 10 puissance 18. Voilà, c'est difficile d'avoir les derniers chiffres absolument. La mémoire de tous les centres de données du monde est évaluée à 3 10 puissance 21. Donc ça, c'est des chiffres qui correspondent à des réalités et non pas à des spéculations. Alors, comment estimer la mémoire numérique globale ? Alors, une petite remarque. En passant, évaluer la population humaine, c'est déjà difficile. On vient de nous expliquer qu'on avait atteint 8 milliards. Ces jours-ci, je crois, on a atteint 8 milliards. Bon, mais les calculs ne sont pas très précis. Peut-être que c'était il y a 15 jours, peut-être que c'est dans 6 mois. C'est difficile de compter très précisément le nombre d'êtres humains. Pour la mémoire, c'est encore plus difficile. D'abord, il faut bien préciser ce qu'on veut mesurer. Et alors, moi, je vais le préciser ici. Pour moi, ce que je veux mesurer dans les chiffres que je vais présenter, c'est toutes les informations qui sont codées sous un format numérique. Donc ça inclut les disques durs des ordinateurs, les disques SSD, sur cet ordinateur-là, c'est un disque SSD, donc c'est les clés USB, les CD, les DVD, même pourquoi pas les mémoires des puces qui fonctionnent dans les machines à laver ou des choses comme ça, bon, à condition que ces mémoires restent lisibles, par des dispositifs appropriés, encore disponibles. Voilà, c'est ça l'idée. C'est donc pas question de parler de la mémoire qui peut être stockée sous format papier, des images imprimées, des photos imprimées ou des choses comme ça. Ça, c'est pas de la mémoire numérique, c'est que de la mémoire numérique auquel on s'intéresse. Alors, pour une évaluation précise, directe, il faudrait connaître les chiffres de tous les supports numériques produits par toutes les firmes concernées, et puis additionner tout ça. C'est pas totalement impossible à envisager, mais c'est déjà difficile. Mais ce qui est le plus difficile, et ça va être l'un des problèmes les plus sérieux pour arriver à un chiffre global, c'est qu'il faudrait réussir à évaluer, parmi tous les dispositifs qui ont été créés, tous les disques durs qui ont été fabriqués, quels sont ceux qui fonctionnent encore aujourd'hui ? Ou ceux qui ont été jetés, vous avez jeté votre téléphone portable avec la mémoire qu'il y avait dedans, il a été détruit éventuellement. Pareil pour les ordinateurs qu'on utilisait avant. Donc, quelle est la proportion de cette mémoire numérique qui a été en fonctionnement il y a 5 ans, il y a 10 ans, ou même il y a 2 ans, et puis qu'on n'utilise plus ? Ça, c'est quand même très difficile à évaluer. Alors, heureusement, certains dispositifs sont peu importants devant d'autres. Et par exemple, si on regarde les CD, aujourd'hui, ils sont passés de mode et leur capacité, même si elle nous a éblouis à une époque, elle est quand même assez faible à côté des disques durs qu'on vend aujourd'hui, des disques SSD. Et donc, on va pouvoir se dispenser ou en tous les cas contourner une évaluation précise de tous les CD qui existent sur Terre. Ce n'était pas le cas en 2020. Je veux dire en 2000 quand j'ai fait mon évaluation de 10 puissance 20. Maintenant, en 2022, on peut négliger ou contourner l'évaluation des CD. Donc, alors, j'ai mené une série de raisonnements en utilisant diverses données qu'on trouve à droite et à gauche et en les combinant, etc. Je vais en donner un exemple. Et on arrive à la conclusion que 10 puissance 22 est certainement atteint aujourd'hui pour toute la mémoire numérique qui existe sur Terre. 10 puissance 23, c'est pas sûr. Alors, exemple de raisonnement pour évaluer la mémoire numérique totale. On va repérer les sources les plus importantes, parce que finalement, ce n'est pas la peine de détailler ce qui est négligeable ou faible. Alors, si on classe les catégories, par catégorie, les diverses mémoires numériques qui existent, il y a en premier les disques durs, en second les disques SSD, donc qui se généralisent de plus en plus. Quand aujourd'hui on achète un ordinateur, le plus souvent il va être équipé d'un disque SSD. Il y a les mémoires non volatiles des processeurs et des ordinateurs. Il y a la mémoire optique, donc les CD, les DVD, etc., qui est de moins en moins utilisée, mais qui existe toujours. Et puis, il y a les bandes magnétiques qui sont réservées à quelques usages professionnels. Au CERN, certainement, ils en utilisent, mais qui ne concernent finalement pas un très grand nombre de gens. Et par ordre, l'ordre que j'ai mis ici, ça correspond effectivement à l'ordre d'importance décroissante. Alors, j'ai exploré ce qu'on peut trouver sur Internet, et par exemple, il y a des sites qui s'occupent de ces choses-là, qui citent des chiffres, donc je les ai utilisés, je les ai comparés, je les ai mis en relation les uns avec les autres pour voir la cohérence de ce qu'on obtenait. Une chose est affirmée, que je crois assez raisonnable, c'est que la mémoire la plus importante est représentée par la partie A, donc les disques durs, et qui représente 60% de la mémoire nouvelle créée en 2021. Donc 60% de la nouvelle mémoire, c'est des disques durs. Alors, si on prend en compte le nombre de disques durs fabriqués, la quantité donc, de mémoire fabriquée pour les disques durs, ça, on peut l'évaluer. Il suffit d'aller interroger les fabricants et de savoir quelle a été leur production. Et donc, c'est ce que fait, par exemple, le site statistica.com. Et il évalue que 1 zeta-octet, donc 10 puissance 21 octets, ont été fabriqués en 2020. Alors, en 2021, c'est un peu plus. On arrive, on va dire, à 2 zeta-octets pour tout ce qui a été fabriqué et vendu en 2021. Alors, reste à évaluer, et ça c'est le plus difficile, la quantité de mémoire qui a été produite les années précédentes et qui est toujours utilisée en 2021. C'est ce que j'ai expliqué, c'est la difficulté de savoir quelle est la proportion d'ordinateurs qui ont été jetés et qu'on n'utilise plus. Là, c'est une évaluation, je ne veux pas dire arbitraire, on essaie d'être le plus raisonnable possible. On évalue qu'il faut multiplier par un facteur entre 5 et 10. Et donc, on arrive à la fourchette entre 10 puissance 22 octets et 10 puissance 22 octets pour la mémoire numérique quand on fait ce raisonnement-là. Alors après, il faut en faire d'autres, et il faut comparer les divers raisonnements. Mais quand on fait ce raisonnement-là, avec ces approximations, on arrive à une quantité de mémoire sur Terre, une mémoire numérique, entre 10 puissance 22 et 2 fois 10 puissance 22. Il y a des sites qui citent d'autres chiffres, mais ils ne donnent pas le détail de leur raisonnement, ce qui est un peu ennuyeux. Et par exemple, sur un site, on indique 7 fois 10 puissance 22, et puis sur un autre, on indique 6 fois 10 puissance 22. Tout ça, c'est pour 2021. Ces chiffres ne sont pas complètement incompatibles. Ce n'est pas les mêmes. Il y a un facteur 2 ou un peu plus entre ces chiffres. Maintenant, quand on prend toutes ces évaluations, on peut être certain, moi je n'ai pas de doute dessus, que la quantité de mémoire numérique sur Terre, elle est entre 10 puissance 22 et 10 puissance 23. Vraisemblablement plus proche de 10 puissance 22 que 10 puissance 23, bien que certains sites citent cette fois 10 puissance 22 octets. Alors, on ne peut pas être plus précis, et je ne vois pas comment on peut être plus précis, à cause en particulier des ordinateurs qui sont jetés, des téléphones qui sont jetés, etc. Mais on peut avoir un chiffre, et ce chiffre, il n'est pas absurde. Voilà, on en est à l'ordre de 10 puissance 22, une fois, deux fois, quatre fois, peut-être 10 fois. Alors, on peut s'amuser à un jeu C'est une heure de, si on considère une vidéo de qualité moyenne qui prend donc 1 gigaoctet par heure. On peut se poser la question, mais c'est un jeu, hein, je précise bien. Combien de vies entières filmées pendant de gens qui vivraient 80 ans peut-on conserver dans ces 10 puissance 22 octets? Et là, je prends la fourchette basse. Alors, il suffit juste de faire une règle de 3, et on a 14 millions de vies entières. Ah, c'est pas mal quand même. Et puis, alors, bon, si on était plus équitable et que plutôt que de filmer en continu, donc 14 millions de personnes, si on répartissait la mémoire disponible pour filmer des instants importants de la vie de chacun des 8 milliards d'êtres humains, ben, on pourrait filmer pour chacun d'eux 1250 heures de vidéo pour chacun. Ce qui est quand même pas mal. Donc, c'est amusant. Et puis, avec les progrès qui vont venir, peut-être qu'à un moment donné, on pourra enregistrer le film de la vie de tous les êtres humains et puis le stocker. Alors, bon, sans doute qu'on ne le fera pas, mais c'est amusant de penser que les ordres de grandeur auxquels on est arrivé, c'est les ordres qui permettront dans 10 ans, dans 20 ans ou plus tard, d'enregistrer la vie complète de tous les êtres humains, y compris quand ils dorment. Alors déjà, si on les filme pas quand ils dorment, on va économiser la moitié. Bon, c'est un jeu. Alors, un point sur lequel je veux insister, c'est que les progrès du calcul sont plus rapides que ceux de la mémoire. Donc les progrès du calcul numérique vont plus vite que ceux de la mémoire. Alors, mesurer la quantité de calcul, c'est plus difficile encore que mesurer la quantité de mémoire. Alors, d'abord parce que les unités de calcul numérique sont multiples et sont assez délicates. J'avais écrit tout un article là-dessus. C'est vraiment qu'on peut envisager l'opération logique par seconde, donc un ou un et entre deux bits d'information, ça pourrait être ça l'unité. On pourrait envisager l'instruction par seconde pour un processeur moyen. Quand on dit instruction par seconde, c'est pas précis parce que selon le processeur, ça va pas être la même chose. On pourrait envisager l'opération en nombre entier codé sur 8 octets par seconde. Il y a beaucoup de programmes qui fonctionnent avec des nombres de ce type-là, ou l'opération en virgule flottante, donc ce qu'on appelle le flop, ou le hertz. À ce moment-là, c'est une fréquence de calcul du microprocesseur. Bon, alors, il faut être conscient de ça, c'est délicat, et ça rend plus difficile et plus incertain les chiffres auxquels on va arriver. Mais l'unité sur laquelle je me suis fixé, c'est l'instruction par seconde pour un processeur moyen. Et il y a des comparaisons qui permettent de savoir que tel processeur fait 2 fois plus, etc. Mais c'est délicat. Hein. Ça, je ne veux pas cacher le fait que c'est très délicat. Alors, quand on fait des calculs, vraiment, alors cette fois-ci, on obtient des résultats qui concordent vraiment à un ordre de grandeur près, tout juste. Voilà. On a dépassé 10 puissance 23 opérations par seconde. Et il y a quelque chose qu'il faut distinguer dans cette évaluation du calcul numérique sur Terre. Il y a ce qui est fait effectivement à chaque instant. Là, mon ordinateur, il fait des calculs, mais quand je le sollicite plus, il peut en faire plus. Donc il a une capacité à faire des calculs qui est supérieure à celle qui est mise en œuvre à l'instant. Et c'est pareil pour mon téléphone qui est plus ou moins en repos là tout de suite. Donc il y a quand même deux notions qui vont être distinctes l'une de l'autre. C'est la quantité de calcul qui est effectivement mise en œuvre chaque seconde sur Terre et la capacité globale de tous les dispositifs numériques pour calculer. Et entre les deux, il va y avoir au moins un facteur 10, peut-être plus. D'accord. Donc, il faut bien distinguer les deux. Et quand on distingue les deux, bon, je donne pas d'exemple de calcul, mais on arrive au fait que 10 puissance 23 est sans doute dépassé, et dans le cas de la capacité globale de calcul, on en est certainement même au-delà de 10 puissance 24. Donc, il y a eu une divergence, avec les unités que j'ai choisies, hein, qui sont arbitraires, évidemment, hein. Il y a une divergence qu'il n'y avait pas en l'an 2000, où c'était 10 puissance 20 pour chacun des deux. Maintenant, il y a une divergence, ça va être 10 puissance 22 entre 22 et 23 pour la mémoire, et entre 10 puissance 23, 10 puissance 24, voire un peu plus, quand on considère la capacité globale non forcément active à chaque instant. Alors, se pose une question, si on admet ces chiffres-là, et vous pouvez me faire confiance, au moins sur la conclusion que pour le calcul, ça va plus vite que pour la mémoire. Pourquoi la capacité de calcul s'accroît plus vite que la capacité de stockage, la capacité de mémoire? C'est la question qui se pose naturellement. Pourquoi il y a une différence entre les deux? Alors, il y a une explication en termes de demande. Première explication possible, c'est que, en fait, nous sommes utilisateurs de calculs dont il n'est pas nécessaire de garder les traces. Par exemple, quand on parcourt les pages Internet, des pages Internet pour la recherche d'une information, on va charger des pages, on va les lire, ou les parcourir rapidement, changer de page, etc. Et pour que l'information arrive sur notre ordinateur et qu'on puisse la lire, il y a tout un travail qui est fait de calcul, donc de circulation de l'information du site émetteur à notre ordinateur, mais aussi de décompression d'images, etc. Il y a tout un ensemble de calculs qui est fait. Et puis quand je change de page, tout ça, c'est tout de suite oublié. Donc les calculs qui sont faits pour afficher une page servent à afficher la page, et quand je change de page, ces calculs n'ont engendré aucune mémoire, sauf si je stocke la page parce que je veux la garder. Donc en fait, aujourd'hui, on est de plus en plus utilisateurs de calcul sans que nécessairement il y ait une mémorisation qui se passe par derrière. D'accord ? Dans le cas du streaming audio ou vidéo, c'est encore plus évident. La vidéo, on la regarde, donc il y a tout un travail de décompression, de calcul, de circulation d'informations. Et puis, ça y est, la seconde d'après, on peut tout effacer. Tout ce qui a été nécessaire comme calcul pour afficher la seconde X à la seconde X plus 1, on peut l'oublier. Donc il y a une pression qui est supérieure pour avoir de la puissance de calcul que pour avoir de la mémoire, à cause des algorithmes et de l'usage qu'on fait du numérique. Il y a de nombreux algorithmes qui opèrent massivement des calculs pour ne retenir qu'un résultat à la fin. Alors, je parlais des algorithmes de décompression, par exemple, mais il y en a des tas d'autres. La circulation de l'information, c'est ce que je viens de dire, sur le réseau, est dans cette situation-là. Chaque serveur relais oublie aussitôt ou assez rapidement la majeure partie de ce qui passe par lui, mais qu'il a dû télécharger, déplacer d'un point à l'autre de sa mémoire, etc., réémettre, etc. Et donc, le développement de l'informatique des réseaux exige bien plus une augmentation du calcul qu'une augmentation du stockage, a priori. Alors, il y a un cas qui est tout à fait extrême, et je vais revenir après sur une autre explication. Hein. C'est le cas des monnaies cryptographiques, ou de ce qu'on appelle les blockchains. Alors, je ne veux pas parler de ça aujourd'hui, sinon je parlerai pendant une heure de ça, ou même plus. Mais je vais expliquer quelque chose. Donc, la monnaie cryptographique qui est la plus connue, c'est le Bitcoin. Et dans le cas du Bitcoin, il y a ce qu'on appelle le minage. Alors, le minage, je vais expliquer ce que c'est quand même en quelques secondes. Le minage, c'est une opération qui est menée par les nœuds validateurs. Alors, le Bitcoin, donc, c'est une monnaie qui est non centralisée. Donc, toutes les opérations qui sont faites pour savoir que tel compte détient tant de Bitcoin, ce sont des opérations qui sont faites par une série d'ordinateurs indépendants les uns des autres, qui fonctionnent en réseau. C'est un réseau pair à pair, donc les nœuds du réseau sont indépendants, et qui font tous des calculs équivalents, ou on peut dire identiques, pour stocker l'information qui permet de calculer que tel compte détient tant de bitcoin, que tel autre détient tant de bitcoin. Donc il y a une sorte de répétition du calcul, de validation et de gestion des comptes, qui est fait par chaque nœud validateur. Ça, c'est le principe général des blockchains. Chaque nœud détient une copie de l'information et chaque nœud met à jour les informations au fur et à mesure qu'elles évoluent. Tel compte a déplacé un certain nombre de bitcoins vers un autre compte, etc. Et donc, cette mise à jour des informations se fait sur chaque nœud du réseau. Dans le cas du bitcoin, il y a à peu près 15 000 nœuds qui font cette validation. Donc il y a une sorte de répétition du calcul, puisque chacun, d'une certaine façon, fait tous les calculs nécessaires. Si le réseau Bitcoin était centralisé, ou l'équivalent d'un réseau Bitcoin était centralisé, il y aurait besoin de faire qu'une fois les calculs. Mais là, il y a 15 000 nœuds validateurs, et donc il y a 15 000 fois le calcul qui est fait. Ça a été rendu possible que parce que, justement, on sait faire très rapidement des calculs aujourd'hui, et donc on peut gérer, effectivement, un cahier de compte qui dit quels sont les bitcoins qui sont sur tel compte, etc., en 15 000 endroits différents. Alors, ça c'est pas le problème de la dépense électrique du Bitcoin, bien que 15 000 fois ce que pourrait faire un ordinateur, c'est déjà 15 000, c'est déjà beaucoup plus qu'une fois. Mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que dans le fonctionnement du Bitcoin, il a été prévu pour inciter les nœuds à exister, pour inciter que des gens consacrent leur capacité de calcul ou la capacité de calcul de leur ordinateur à faire cette surveillance du réseau, il a été prévu un système de rémunération. Donc, toutes les 10 minutes, il y a aujourd'hui ces 6,25 bitcoins qui sont attribués à l'un des nœuds validateurs, à l'un des nœuds qui fait fonctionner le réseau. Et le problème, c'est le problème de à quel nœud on va attribuer cette récompense. On pourrait la disperser sur tous, mais bon, il y a des raisons pour lesquelles on ne le fait pas. Et donc, ce qui a été choisi par l'inventeur du réseau Bitcoin, qui s'appelle Satoshi Nakamoto, et on ne sait pas qui c'est, c'est quelqu'un mais ce qui a été choisi par lui, c'est un système qui consiste à chaque instant à créer un problème, et il y a un concours de calcul qui est mené par les 15 000 nœuds du réseau, et le premier des nœuds qui résout le problème, c'est lui qui gagne. C'est lui qui gagne, et donc c'est lui qui va avoir le droit, en fait, de rajouter la nouvelle page sur la blockchain, mais donc ça, c'est le travail de validation, que les autres vont contrôler, mais voilà, c'est pas ça qui est important. Mais il va toucher les 6,25 bitcoins toutes les 10 minutes, donc quand il aura gagné à un certain instant, il touchera 6,25 bitcoins, et puis les 10 minutes suivantes, ça sera un autre, etc. etc. Donc ça, c'est le système de rémunération des nœuds, pour qu'il y ait des nœuds qui valident effectivement et qui fassent fonctionner le réseau. Et là où il y a un problème, et c'est vraiment un problème gravissime, c'est que ce concours de calcul, qui au départ était en quelque sorte peu coûteux, au fur et à mesure du temps, il est devenu très coûteux. Alors pourquoi il est devenu très coûteux ? Il est devenu très coûteux parce que le problème, il a fallu le rendre plus difficile, parce qu'il ne s'agissait pas que le problème qui est posé toutes les 10 minutes, il soit résolu en 3 secondes ou en une demi-seconde. Donc, il y a quelque chose qui est prévu dans le fonctionnement du réseau Bitcoin qui fait que la difficulté des problèmes qui sont soumis toutes les 10 minutes, elle augmente au fur et à mesure qu'il y a un nombre de validateurs qui augmente. Et au fur et à mesure que les validateurs mettent à disposition de leur recherche de la solution une quantité de calcul plus importante. Donc, ce qui s'est passé au cours des années, à cause de l'intérêt qu'il y avait à gagner des bitcoins toutes les 10 minutes, c'est que cette compétition entre les validateurs pour toucher les 6,25 bitcoins, au départ c'était plus que 6,25, mais passons sur ce détail, ce concours de calcul, petit à petit, les validateurs ont investi de plus en plus de moyens. De plus en plus de moyens, ça signifie d'ailleurs qu'ils ont abandonner l'utilisation d'un ordinateur de base pour faire les calculs pour résoudre le problème qui est posé toutes les 10 minutes, ils ont utilisé des cartes graphiques, et puis maintenant ils n'utilisent plus du tout des cartes graphiques, ils ont fait fabriquer des circuits spéciaux, des circuits ASIC, qui sont spécialisés dans le type de calcul qu'il faut faire pour être le premier à gagner le concours de calcul. Et donc cet investissement et la multiplication des machines qui ont été consacrées à ce concours de calcul entre les validateurs a conduit à quelque chose qui est complètement fou. Alors, aujourd'hui, dans le cas du Bitcoin, le concours de calcul, il consiste à calculer très rapidement, pour gagner le concours, il faut calculer très rapidement une certaine fonction, ce qu'on appelle une fonction de hachage en informatique, qui est la fonction SHA-256. Et aujourd'hui, elle est calculée 2 10 puissance 20 fois par seconde, par le réseau. Si on prend l'ensemble du réseau, c'est absolument dément comme chiffre. C'est presque le 10 à la puissance 20, on retrouve celui qui était en l'an 2000. Et donc, le réseau a tellement acquis de capacité de calcul, c'est-à-dire chaque validateur pour multiplier ses chances de gagner les nouveaux bitcoins, qu'aujourd'hui, on arrive à cette situation. Alors, ça ne signifie pas grand-chose, sauf que, inévitablement, même si on a augmenté l'efficacité de calcul des processeurs qui participent au concours, malgré tout, ils dépensent une certaine quantité d'énergie. Et la quantité d'énergie... aujourd'hui, quand on la calcule, Alors, il y a des façons de calculer, je suis un petit peu spécialiste de ça, je ne vais pas vous les détailler, mais au strict minimum, c'est l'équivalent de 50 TWh par an. Et alors, 50 TWh par an, il faut comparer ça à la production française d'électricité. Je sais pas, je crois que je l'ai marqué ici. C'est 500 TWh par an, ce qui est produit en France. Et à l'échelon mondial, j'ai marqué le chiffre ici. Non, j'ai pas indiqué le chiffre ici. Alors, pour donner une autre façon d'évaluer à quel point c'est important, si on calcule en réacteur nucléaire, un réacteur nucléaire, ça produit à peu près 8 TWh par an d'électricité. Bon, donc les 50 TWh, ça correspond à peu près à 6 réacteurs nucléaires. Et ça, c'est une évaluation à minima, vraiment à strict minimum. Vraisemblablement, la dépense du réseau Bitcoin, donc des validateurs qui se disputent les 6,25 bitcoins, elle est plutôt le double ou le triple, et donc on arrive à 10 réacteurs nucléaires, voire plus. C'est complètement dément. Ce qui est encore plus dément dans cette histoire, c'est une vraie folie, hein, cette histoire-là, c'est que la méthode qui est utilisée, donc ce concours de calcul pour désigner celui qui va toucher les nouveaux bitcoins et rajouter la nouvelle page toutes les 10 minutes, en fait, on peut la remplacer par une autre méthode. Donc ça revient en fait à changer une sorte de brique dans le protocole de fonctionnement du Bitcoin, de la monnaie cryptographique, ce qu'on appelle la preuve d'enjeu. La preuve d'enjeu, elle ne dépense rien, parce que elle est basée sur l'idée que le concours va se faire par une quantité d'argent que les validateurs mettent en gage, comme quand on joue au poker, etc. Donc, du coup, ça ne dépense pas d'électricité. Et du point de vue de la sécurité, une fois qu'on conçoit bien ce qu'on appelle ces preuves d'enjeu, on a quelque chose qui est équivalent en sécurité à la preuve de travail du Bitcoin et qui ne dépense pas d'électricité. Donc, ce qu'on peut dire, et j'ai écrit des articles dans lesquels je dis ça tout simplement, dans la conception du protocole Bitcoin, il y a une erreur. Il y a une erreur qui, au départ, n'avait pas d'importance quand il y avait 20 validateurs qui se disputaient la récompense, mais qui, au cours des années, puisque maintenant ça fait plus de 12 ans que le Bitcoin existe, a pris une importance colossale, alors que c'est absurde, puisqu'on peut remplacer ce protocole de preuve de travail par la preuve d'enjeu, qui ne dépense rien. Et cette substitution de la preuve de travail par la preuve d'enjeu, ce n'est pas un rêve. La seconde crypto-monnaie qui est l'Ethereum, qui est le réseau Ethereum, qui émet une monnaie qui s'appelle l'Ether, vient le 15 septembre de passer de la preuve de travail à la preuve d'enjeu. Ce qui est un exploit informatique tout à fait considérable parce qu'ils n'ont pas arrêté le fonctionnement de leur blockchain et de leur crypto-monnaie et ils ont fait ce passage. Alors il y a des gens qui ont comparé ça à changer un moteur d'avion en plein vol. Bon, c'est un petit peu ça. Mais ce passage qui a été fait le 15 septembre dernier, il a parfaitement fonctionné. Aujourd'hui, le réseau Ethereum fonctionne sur la preuve d'enjeu et l'économie d'électricité par rapport à son ancien fonctionnement qui était basé sur quelque chose d'analogue à ce qui se passait pour le Bitcoin, c'est un facteur d'environ 2000. L'économie, on a gagné un facteur 2000. On dépense 2000 fois moins d'électricité pour faire fonctionner le réseau Ethereum. Donc, il resterait plus qu'au réseau Bitcoin à passer aussi à la preuve d'enjeu, mais pour l'instant, pour des raisons que je ne vais pas détailler, c'est difficilement envisageable. Alors, voilà le genre d'usine de minage. Une usine de minage, c'est ça. C'est des machines qui... Alors, on les voit là. Ça, c'est une machine. Ça, c'est une autre machine. Chacune des machines contient en général plusieurs dizaines de puces ASIC qui fonctionnent. Pour justement calculer du SHA 256. Et voilà, ça fait des murs comme ça, ça fait des hangars entiers, voire plusieurs hangars. Les compétiteurs aujourd'hui, pour gagner le concours de calcul qui leur permet de récupérer les bitcoins distribués toutes les 10 minutes, ça conduit à des usines de ce type-là, qui sont une absurdité totale. Puisqu'on peut remplacer la preuve de travail par la preuve d'enjeu. Bon, il y a une sorte d'irrationalité totale dans cette histoire. Voilà une autre usine, mais je pourrais vous montrer des dizaines de photos. C'est complètement dément et absurde. Et les gouvernements hésitent aujourd'hui à interdire le fonctionnement des crypto-monnaies avec la preuve de travail. Ça a été évoqué plusieurs fois, y compris au niveau européen. Mais pour l'instant, les intérêts qui sont derrière le fonctionnement de ces usines-là ont suffisamment de poids, constituent une sorte de lobby, et ils empêchent ces décisions d'être prises. Je pense qu'elles finiront par être prises un jour ou l'autre, mais pour l'instant, elles ne sont pas prises. Voilà. Alors, ces usines-là n'existent pas en France, pour une raison très simple, c'est que pour que ce soit rentable, il faut pouvoir acheter l'électricité assez peu cher, 5 centimes le kilowattheure, ou même moins de 5 centimes. Or, aujourd'hui, le kilowattheure que vend EDF, c'est beaucoup plus que ça. Et donc, aujourd'hui, ce n'est pas rentable d'installer une usine comme ça. Par contre, il y en a au Canada, il y en a aux États-Unis, en particulier au Texas, il y en a au Kazakhstan, il y en a même dans certains pays africains. Quand on peut disposer d'électricité pas chère, ça devient intéressant. C'est une industrie, en fait, d'installer des usines comme ça pour faire du minage de bitcoin et gagner quelques bitcoins de temps en temps en dépensant beaucoup d'électricité, mais il ne faut pas la payer trop cher. Donc, il n'y en a pas en France. Voilà. Donc, je voulais signaler ça parce que c'est quand même quelque chose qui est complètement dément. Et ce qui, moi, me choque beaucoup dans cette histoire-là, c'est que le lobby qui défend les crypto-monnaies et qui défend le bitcoin en particulier ne veut pas changer. Il ne veut pas changer et il a suffisamment de poids pour empêcher des décisions qui interdiraient le bitcoin ou qui interdiraient au moins l'utilisation de la preuve de travail. Et donc, il y a quelque chose qui est assez choquant, surtout quand on sait qu'aujourd'hui, l'électricité et l'énergie d'une manière générale commencent à se faire un peu rare ou difficile. Alors, l'idée que le calcul progresse plus vite que la mémoire, ça conduit à un monde inversé. Alors, je vais expliquer ce que je veux dire par là. Nous sommes aujourd'hui dans une situation qui est l'inverse de celle qui existait au XXe siècle et surtout au XIXe siècle. Par exemple, au XIXe siècle, on calculait des tables numériques, de logarithmes, de fonctions trigonométriques, de nombres premiers, j'ai déjà évoqué, les calculs se faisaient à la main. Et les calculs se faisaient à la main, donc on ne pouvait pas les faire très rapidement. Et les résultats étaient imprimés et les tables étaient multipliées. Et en fait, on faisait des calculs et on élaborait des tables de logarithmes, c'est justement en quelque sorte pour ne pas avoir à faire de calculs. Donc on préférait utiliser de la mémoire, et de la mémoire à cette époque-là, c'était la mémoire sur papier, pour éviter de calculer. Les tables de logarithme, elles servaient à faciliter les calculs. Je ne sais pas si vous en avez utilisé, moi j'en ai utilisé autrefois, mais je ne suis pas le seul dans la salle, je pense. Voilà, c'était un moyen de faire des calculs parce qu'on avait enregistré des résultats d'autres calculs. C'est ça. Le calcul était plus rare que la mémoire. Alors, on peut chiffrer ça de manière précise, je vais donner des exemples. Depuis un demi-siècle, la capacité de calcul a évolué plus vite que la capacité à mémoriser. On n'a pas perçu que les deux choses se sont croisées. Alors, elles se sont croisées à condition de bien fixer les unités, hein, bien sûr. Le croisement, donc, moi je dis, s'est opéré à peu près vers l'an 2000, quand on est arrivé au chiffre 10 puissance 20. Bon, mais il faut bien préciser les unités quand on parle de croisement. Alors, on peut voir cette évolution sur une période assez longue de manière très nette. Par exemple, en comparant deux ordinateurs de la marque Apple. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai repris les caractéristiques d'un ordinateur de 1983 et un autre de 2015. Bon, entre les deux, le gain en vitesse de calcul, il a été de 1,7 10 puissance 7. Donc, on a gagné 10 puissance, 7 ordres de grandeur, ce qui est quand même tout à fait hallucinant. Hein. 10 millions. On a gagné un facteur 10 millions. On va 10 millions de fois plus vite entre 83 et 2015. Par contre, le gain en mémoire, il faut distinguer la mémoire rapide et la mémoire de masse. Le gain en mémoire rapide, il a été seulement en arrondissant, de 10 puissance 4 et de 10 puissance 5 sur la mémoire de masse. Donc, quand on regarde simplement deux ordinateurs et qu'on les compare, on voit effectivement cette différence entre les progrès de la mémoire et les progrès du calcul. Il y a un autre calcul que je me suis amusé à faire, mais qui est un peu ridicule, mais ça fait c'est pour confirmer en quelque sorte ce que je dis. Si on prend la machine analytique de Babbage, qui était une sorte d'ordinateur à engrenage, ça faisait des calculs, et la machine analytique, elle était quand même conçu pour être programmé. On pouvait écrire des programmes avec des boucles et des choses comme ça. Elle n'a jamais été construite complètement, mais certaines parties ont été construites, on les a fait fonctionner. Et avec cette machine, une multiplication entre les nombres. Alors les nombres étaient assez grands quand même, je n'ai plus en tête le nombre de chiffres significatifs qu'ils avaient, mais ils étaient assez grands. Une multiplication prenait 3 minutes. Et la mémoire centrale était de 5 kilooctets, ce qui n'est quand même pas tout à fait négligeable. La mémoire, c'était simplement la position de roue. Chaque roue avait une certaine position et ça mémorisait un chiffre décimal. Alors, le rapport opération par seconde sur octet, il était de 5 ordres de grandeur inférieur à celui d'un ordinateur de bureau aujourd'hui. Ce qui veut bien dire que le calcul a bénéficié beaucoup plus des progrès de l'électronique que la mémoire. Il y avait d'une certaine façon beaucoup plus de mémoire en proportion que de calcul, et il y a 5 ordres de grandeur qui font de différence entre la machine analytique et un ordinateur de base d'aujourd'hui. Alors, je reviens sur le problème de pourquoi cette évolution qui favorise le calcul plutôt que la mémoire. J'ai donné des arguments tout à l'heure pour dire qu'il y a une pression. On a besoin d'algorithmes qui font du calcul, mais qui n'ont pas forcément besoin de mémoriser quoi que ce soit. Oui, j'ai oublié de dire que dans le cas du Bitcoin, une fois que l'un des validateurs a gagné le concours, tous les calculs qu'il a faits, ils sont effacés. En fait, ils sont effacés au fur et à mesure. C'est comparable à quelqu'un qui essaye de lancer, par exemple, 5 dés, et il essaye d'obtenir 5 fois le 6. Donc il jette les dés une fois, ah, c'est pas 5 fois 6, je les rejette, etc. Ce que font les machines dont j'ai montré des photos tout à l'heure, c'est ça. Elles font quelque chose qui est équivalent à jeter des dés en essayant d'obtenir une certaine combinaison. Si la combinaison n'est pas obtenue, on recommence, mais on n'a rien besoin de mémoriser. Donc toutes ces machines, elles font du calcul et elles ne mémorisent rien. Sauf que toutes les 10 minutes, quand l'un a gagné, à ce moment-là, il y a un peu de mémoire qui est utilisée, mais très peu par rapport à la quantité de calcul colossale qui a été dépensés pendant les 10 minutes qui conduisent à la résolution du problème. Alors, la cause profonde de l'évolution, elle est liée à la miniaturisation. En fait, l'idée, elle est très simple. C'est quand on augmente le nombre de transistors par centimètre carré sur une puce, on peut augmenter la vitesse de travail de ces puces, car la distance entre les processeurs, entre les transistors devient plus petite. Donc, quand on augmente le nombre de transistors, en termes de calcul, on a un double gain. On a un gain parce que s'il y a plus de transistors, il y a plus de calcul qui se fait. Et puis, on a un gain aussi parce qu'on peut calculer plus vite. Alors que, du point de vue de la mémoire, quand on augmente le nombre de transistors, bah oui, en gros, la mémoire, elle va augmenter linéairement en fonction du nombre de transistors, proportionnellement même au nombre de transistors. Donc, le nombre de mémoire sur une puce évolue donc, en gros, proportionnellement au nombre de transistors. Donc, du coup, ce nombre de mémoire va, en gros, suivre la loi de Gordon Moore, au sens de Gordon Moore de 1975. Par contre, la vitesse de calcul va augmenter plus vite, puisqu'on va à la fois faire plus de calculs, puisqu'il y aura plus de transistors, et qu'on les fera plus vite. C'est l'explication la plus simple de ce qui s'est passé pour les 50 dernières années. Mais finalement, en y réfléchissant, je pense que ça explique aussi ce qui s'est passé pour les années qui précèdent, donc pour le début du XXe siècle. C'est pareil, la miniaturisation a permis à la fois de faire plus de calculs parce que c'était miniaturisé et à la fois de les faire plus vite. Donc là, il faut retenir quand même de ça que quand on énonce la loi de Moore générale, un doublement pour un prix donné de toutes les choses qu'on peut faire en informatique, bah c'est évidemment une version bien trop simple des choses. Et ce n'est pas vrai tout à fait pour le calcul, puisque ça va plus vite à cause de la rapidité de calcul qui évolue. Et dans aucun domaine, ni que ce soit ni la transmission de données, ni quoi que ce soit, la loi de Moore, elle est strictement vraie. Voilà, bon. Peut-être qu'en termes de nombre de transistors par centimètre carré, elle est vraie, mais dès qu'on passe à autre chose, c'est plus ou moins vrai. Et il y a un domaine, par exemple, sur la vitesse des processeurs. Alors, je ne sais pas expliquer exactement pourquoi, mais c'est des données que j'ai vues dans des livres spécialisés. L'augmentation de la vitesse des processeurs a été de 15% par an en moyenne entre 1978 et 1988. Ensuite, elle a été de 40% entre 88 et 2004. Et puis depuis, elle est seulement de 2% par an. Alors pourquoi, je ne sais pas trop, mais voilà, il y a des raisons profondes et techniques à ça. Je vais parler un peu du trafic réseau. Circulation des données. Alors, on est aussi arrivé au zeta-octet, en octet, mais ce qui circule... mon truc, je marquais zeta-octet en octet par mois. C'est le zeta-octet qui circule par mois sur les réseaux. Alors, quand on consulte diverses sources, on n'obtient pas les mêmes chiffres. Là, je sais pas faire les calculs, moi, directement. Et on trouve les chiffres qui sont publiés, c'est entre 5 et 40 zeta-octets par mois. Donc on est quand même dans l'ordre de 10 puissance 22. Les flux vidéo représentent la moitié du trafic réseau. Tout le monde en a bien conscience, l'explosion de la consommation de vidéos qui a été facilitée par l'utilisation des fibres optiques, qui a été rendue possible par l'utilisation des fibres optiques, mais qui correspond aussi à la demande d'utilisation de YouTube, Netflix, les replays, et puis plus récemment, les zooms, etc., que tout le monde a utilisé. Et ça n'a été rendu possible qu'à cause de cette augmentation de la puissance des réseaux qui a été colossale aussi. C'est quelque chose de... Alors, par exemple, quelques chiffres qu'on trouve. Il y aurait 4,5 milliards d'internautes, dont plus de 50% en Asie. Les appareils mobiles engendrent 60% du trafic réseau. Donc, c'est les ordinateurs, les téléphones, etc. Il y a 30 milliards d'appareils connectés dans le monde. C'est plusieurs par habitant, ce qui est le cas. Moi, j'en ai plusieurs qui sont connectés, y compris ma télévision ou d'autres choses comme ça. Mais c'est le cas, je pense, de tout le monde dans la salle. Il y a 2 milliards de sites Internet dans le monde. Alors, les 5 sites les plus visités par heure sont Google, YouTube, Facebook, Baidu, c'est le truc chinois, et Wikipédia. 90% des recettes sur moteur de recherche sont adressées à Google. Il a réellement réussi à... Et qui répond à plus de 7 milliards de recherches par jour. Il y a 3 milliards d'utilisateurs de réseaux sociaux, dont 2,3 pour Facebook. Alors, c'est des chiffres qui datent d'il y a un peu plus d'un an. Hein, donc, il faut quand même... ça a peut-être un peu évolué.
Les côtés chinois, c'est quoi ?
Pardon ?
Les côtés chinois,
les internets chinois,
tout ça, les chiffres
sont disponibles ? Facebook, je pense, n'existe pas en Chine, mais ils ont l'équivalent. Oui, mais les Chinois ne sont pas encore 3 milliards non plus. Bon, donc, alors voilà, c'est les ordres de grandeur, mais il faudrait regarder de plus près si on veut bien voir aujourd'hui la part de la Chine, qui est devenue très importante, effectivement, récemment. Alors, maintenant, je vais parler d'un dernier problème, c'est la consommation électrique du numérique. Alors, je ne reviendrai pas sur le Bitcoin. Ça, c'est une bêtise absolue. Mais on lit des choses qui sont absurdes. On lit vraiment des choses qui sont absurdes. Et par exemple, d'abord, il faut avoir conscience de choses élémentaires. Quand on envoie un courriel qui contient du texte, sauf s'il est vraiment très long, mais en général, on n'envoie pas des courriels qui sont très longs, on fait circuler, on va dire, en ordre de grandeur, 1 kilooctet de données. Ça peut être un peu plus, ça sera moins, etc. Bon, quand on parcourt des pages Internet en surfant, on télécharge des images, on reçoit des images, hein, plus qu'on en envoie, on fait circuler des images et on aura très rapidement fait se déplacer vers son ordinateur 1 mégaoctet de données, c'est-à-dire 1000 fois plus. Donc là, il y a une différence de 1 à 1000. Puis quand on regarde un film ou quand on fait un zoom, etc., bon, même si sur le zoom on coupe l'image ou des choses comme ça, on aura très vite, et en tout cas pour les films c'est vrai, on aura très vite téléchargé l'équivalent d'un gigaoctet de données. Donc 1 million de fois plus que pour le courriel. Donc ça, c'est des choses qu'il faut avoir en tête. Donc, et la conclusion évidente, c'est que ce n'est pas la peine d'économiser les courriels. Et ce qu'il faut, si on veut dépenser moins d'électricité, ce qu'il faut, c'est éviter les choses qui dépensent le plus. Donc, il ne faut pas regarder de films en replay, il ne faut pas faire de zoom et de choses comme ça. Si on est sensible à ça, mais limiter les courriels qu'on envoie, c'est absurde, c'est complètement absurde. Alors, il y a une affirmation qu'on trouve encore, facilement sur Internet, c'est que un courriel ou une requête sur un moteur de recherche, donc en particulier sur Google, coûterait en électricité autant qu'une ampoule allumée pendant une heure. Si vous cherchez ça, vous allez le trouver. Alors, c'est absolument faux. C'est absolument faux. Si c'était vrai, puisqu'un un courriel, c'est 1 million de fois moins qu'une heure de vidéo, la dépense électrique engendrée par une heure de vidéo serait absolument colossale. Personne ne pourrait payer ça. Et on ne vous fait même pas payer l'électricité quand vous téléchargez un film. Donc, c'est évidemment faux. Alors, on peut essayer de faire des calculs. Alors, un calcul comment élémentaire que j'ai fait, c'est de dire... on part des données de Google, il faut lui faire confiance, évidemment. Google indique qu'il dépense 12 TWh par an pour le fonctionnement de tous ses serveurs et de tous ses centres de données, qui répondent à 7 milliards de requêtes par jour. Donc on fait une règle de 3. On suppose, ce qui va être défavorable à notre calcul, ce qui va augmenter évidemment le résultat qu'on obtient, on suppose que toute l'énergie qu'utilise Google, c'est pour répondre aux requêtes, ce qui n'est pas le cas. Il dépense de l'énergie pour d'autres choses, en particulier pour d'autres services comme Google Earth ou des choses comme ça. Bon, mais on fait cette hypothèse-là, ce qui va donc augmenter le coût électrique d'une requête. Et on obtient quoi? Alors, j'ai fait le calcul, voilà. On obtient que c'est de quoi allumer une ampoule de 100 watts pendant 2 minutes, ou moins de 2 minutes. Donc, en fait, c'est beaucoup moins puisque j'ai grossi en supposant que l'électricité dépensée par Google n'était que destinée à répondre aux requêtes. Donc, déjà, on n'obtient pas une heure. Alors, Google lui-même avait proposé en 2009 une évaluation et lui, il avait conclu que l'ampoule aurait été allumée pendant 10 secondes. Donc, ce n'était pas 2 minutes, c'était 10 secondes quand il fait les calculs autrement que ceux que j'ai fait moi-même. Et puis, c'était il y a 10 ans. Et en 10 ans... Il y a eu les progrès de la loi de Moore. Et les progrès de la loi de Moore, ils ont fait gagner vraisemblablement un ordre de grandeur dans le coût électrique d'une requête. Parce qu'on utilise des processeurs qui dépensent moins, etc. etc. Et donc aujourd'hui, on arriverait plutôt à 1 seconde. Donc voilà, on est passé d'une heure à 1 seconde. Alors, c'est des calculs qui sont très approximatifs, mais en tant que physicien, vous êtes habitué à faire ça plus que moi. Non, non. Mais peut-être pas aussi grossièrement que ce que je propose ici. Mais voilà, une heure, c'est totalement déraisonnable. C'est totalement déraisonnable. Alors, et puis il y a autre chose qu'il ne faut pas oublier quand on parle de la consommation électrique du numérique, c'est que quand vous faites une réunion Zoom, plutôt que de vous déplacer à Paris pour rencontrer d'autres gens, bah, vous économisez toute l'énergie d'une voiture ou d'un train, parce qu'on en fait circuler un peu moins, ou je ne sais pas quoi. Donc, quand on envoie un mail, on économise l'énergie de la lettre qu'on aurait mise dans une enveloppe, qu'on aurait fait circuler par le train, par des voitures, etc. Donc, voilà, le numérique consomme de l'énergie, mais il en fait aussi beaucoup économiser, il n'y a aucun doute là-dessus. Et puis, il ne faut pas oublier non plus, quand on fait des calculs de ce genre-là ou quand on se pose des questions à ce sujet, que la loi de Moore, même si elle faiblit, même si elle diminue, elle continue d'être vraie. Donc, il y a, une quantité, il y a un facteur 2 tous les 3 ans, peut-être, qui va être gagné. Et donc, le coût d'un mail, le coût d'une heure de vidéo va être divisé par 2 aussi en consommation d'électrique dans les deux ans qui viennent ou les 3 ans qui viennent. Donc voilà, donc si vous voulez faire économiser de l'énergie et en dépenser moins par le numérique, il ne faut pas jouer sur les courriels, il ne faut pas jouer peut-être même sur les recherches Internet, mais plutôt sur la vidéo. Et puis en fait, il y a autre chose qui est très important dans la dépense électrique du numérique, c'est la fabrication des appareils. Quand vous changez de téléphone, quand vous changez d'ordinateur, il y a, à cause de la fabrication des appareils, une consommation indirecte pour la fabrication qui est très importante et qui est plus importante ou équivalente à celle de toute l'électricité que va dépenser le dispositif numérique pendant son fonctionnement. Donc si on veut limiter la dépense électrique du numérique, la chose la plus importante et la plus efficace, c'est de ne pas changer trop souvent son matériel. Mon ordinateur, il est vieux. Il a 7 ans. il fonctionne encore très bien. Alors, le numérique, ça serait 4000 TWh par an, je ne sais plus quel chiffre j'ai cité tout à l'heure. La production totale d'électricité mondiale, c'est 26 000 TWh. Donc, c'est aux alentours de 20% aujourd'hui, ce qui est quand même beaucoup. La dépense du numérique, c'est 20% de l'énergie numérique, électrique qui est produite. Je dis bien électrique, hein, ça. Électrique, oui, ça n'inclut pas le pétrole, le gaz, etc. De manière indirecte, en tous les cas. C'est considérable, bon, voilà, il faut être attentif à la façon dont ça évolue, mais voilà, la loi de Moore va la faire évoluer en quelque sorte dans le bon sens. Et puis, tout ce qu'on économise en utilisant du numérique plutôt qu'en envoyant des lettres dans des enveloppes, etc., etc., c'est bon. Donc, moi, je ne suis pas. Contrairement au langage que tiennent certaines personnes, je ne suis pas défenseur de l'idée que le numérique coûte trop cher, etc. Non, je ne pense pas qu'il coûte trop cher. Il faut faire attention, mais je ne pense pas qu'il pose un problème dans la mesure où il fait économiser aussi beaucoup. Donc, les conclusions auxquelles j'arrive, c'est les chiffres de l'ère numérique Zeta sont le résultat de quelque chose d'inouï sur un plan technique du travail qui est fait par les ingénieurs, par l'informatique. C'est quelque chose d'inouï, ce progrès qui a pu se prolonger pendant 60 ans, où on a gagné effectivement un facteur 2 tous les deux ans. C'est quand même quelque chose d'absolument inouï. L'équivalent dans aucun autre domaine, certainement pas dans la vitesse des voitures ou je ne sais quoi. Donc voilà, ça change complètement le monde dans lequel on vit, ça, il n'y a aucun doute. Même si ces chiffres montrent qu'une part importante d'énergie doit être consacrée au monde nouveau et virtuel que nous avons créé, ayons quand même conscience de tout ce que cela nous apporte. Et par exemple, reconnaissons une chose, c'est que ce qui s'est passé pendant la pandémie de Covid-19 en 2020, aurait été beaucoup plus difficile à supporter si on n'avait pas disposé du Zoom et de tous les moyens de communication qui sont restés. Voilà, et puis j'ai terminé.